Melting Pot sur BXFM.
Toujours dans le Melting Pot, comme chaque jour sur BXFM 104.3 entre 12 et 13 heures. Et c'est Evelyne Guzy qui est avec nous. Bonjour Evelyne.
Bonjour Charles.
Tout va bien?
Très très bien. Je traîne toujours ma petite grippe, mais je suis toujours courageusement au poste.
Une grippe, ça veut dire qu'on reste chez soi. Hein?
Oui,
on
ne
vient pas à la radio.
Vous me renvoyez. Le microbe va être contagieux. J'ai dit le microbe va être contagieux.
Oh, mais le microbe ou le micro, c'est selon.
Voilà.
Alors, aujourd'hui, on a un invité.
Oui.
Et vous allez le présenter.
Absolument. On a comme invité Alain Lallemand. Alors, c'est rare d'être invité ici. Il faut vraiment que j'aime bien le livre. Alors, Alain Lallemand, pour un livre que j'aime beaucoup, qui est Ma plus belle déclaration de guerre, qui a été publié chez Luce Wilkin, éditeur dont on a déjà parlé, et qui est un roman. Alors, Alain, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous présenter. Et en fait, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, vous êtes journaliste et journaliste au soir. On vous connaît beaucoup pour vos grands reportages, notamment sur les terrains de guerre les plus chauds, mais aussi sur des terrains bien de chez nous. Donc, vous avez déjà parlé des sectes, vous avez déjà parlé des mafias, vous avez été partout où les bombes sautent et où c'est dangereux. Et j'ai eu l'occasion de vous lire à toutes ces occasions. Votre travail est généralement très documenté, va au fond des choses. Et là, vous abordez finalement ces mêmes sujets par le biais de la fiction. Vous nous plongez au cœur de l'actualité. Et la première question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, c'est pourquoi la fiction?
En fait, j'ai réalisé, mais il y a déjà une paire d'années maintenant, que pour certains dossiers, il n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser la fiction. Le premier déclic pour moi, c'est un roman publié en 2007 qui s'appelle La femme héroïne. J'ai passé un peu plus de 2 ans de ma vie à enquêter sur le seul meurtre d'une ressortissante belge que nous ayons eu en Afghanistan. Et quand j'ai eu terminé l'enquête, je me suis dit, ok, maintenant je peux écrire l'enquête, ça me prendra 2000 pages. Personne ne va lire cela, sauf peut-être la femme. Alors, si vous voulez expliquer tout l'amour que vous avez pour l'Afghanistan, en tant que journaliste qui est quand même passé du temps, des années, si vous voulez expliquer toute la complexité d'un dossier judiciaire qui n'était pas encore clôturé et pour lequel il faut essayer de préserver les intérêts, eh bien, il n'y a que la fiction. Ici, on est un peu dans le même raisonnement. Pour ma plus belle déclaration de guerre, je voulais faire état de quelque chose dont je ne peux jamais parler dans les articles. C'est une sorte de déchirement que je vois chez les médecins urgentistes, mais que je vois aussi chez les journalistes, chez les diplomates, chez toute une série de personnes qui sont dans le monde global et qui est... Comment est-ce que je peux arriver à être à la fois un citoyen digne qui s'occupe du monde tel qu'il va, et on sait que le monde ne va pas toujours très bien, et être un père attentif, proche de ses enfants? Comment est-ce que je peux être dans le très proche et dans le très lointain? Comment est-ce que je peux être sur le bon des deux côtés? Alors des tas de gens essayent de faire ça. On est un peu comme ces jongleurs d'assiettes chinois, vous savez, on lance les assiettes et on essaye de les faire tourner du côté privé, du côté professionnel. Pour vous, les femmes, c'est encore pire. Il y a l'aspect famille, il y a l'aspect travail. Enfin, on est sur différents fronts et on essaye de tout faire tenir en même temps. Et en fait, on se rend compte que le très lointain et le très proche, maintenant, sont en train d'entrer en collision. On parle beaucoup, ces jours-ci, des djihadistes, des returnees. Eh bien, moi, je développe dans ma plus belle déclaration de guerre le fait que nos adolescents en crise pourraient très bien avoir un impact sur des conflits très lointains. Alors, ce n'est pas du tout ici un roman, vous l'avez compris, sur le djihadisme. On est face à un médecin urgentiste qui a un projet magnifique qui se passe à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il veut développer une maternité en zone talibane, une maternité à l'occidental en zone talibane. C'est extrêmement subversif comme idée. Et à côté de cela, eh bien, il doit rester père extrêmement attentif à ses enfants. Et moi, j'imagine un roman dans lequel on va avoir une action qui se développe en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, à Djibouti, en Somalie. Et au total, le père et le fils sont entrés dans ce qui est véritablement la guerre de la couverture, ma plus belle déclaration de guerre.
Voilà. Donc, le tableau est brossé, on va dire. On reviendra plus en détail sur l'histoire et les développements et sur votre écriture aussi. Je trouve que votre documentation, je crois que ce sera très intéressant. On fait une petite pause, on respire un petit coup. On boit un peu d'eau, ben voilà, on vous dit tout, hein.
Voilà.
À BXFM. Et on écoute un morceau, qu'est-ce que vous nous proposez?
Ah ben on va s'écouter Overphonic avec Boomerang. À tout de suite sur BXFM. Et on s'écoutera aussi Soirée sur le 104.3 BXFM.be et ainsi que les réseaux sociaux. He likes to play an electric guitar.
back to me.
It always comes back like a boomerang. Words of a liar to hurt life breaking at me. Always comes back like a boomerang back to me. Words of a liar to hurt life breaking at me.
Ah, je suis content de mon épargne. Elle travaille bien à l'école.
Réinvestir l'épargne pour rénover des écoles de la région. Chez CBC Banque et Assurance, on y croit.
1, 2, 3, 4.
Tous les lundis de 20 à 22h, Richard Q, Dave Deep, Lucifer, c'est PX Rock. L'actualité, les légendes, PX Rock, c'est 100% rock. PX Rock, tous les lundis de 20 à 22h sur BX FM.
On your feet or on your knees, is this what our children should be listening to?
PX Rock.
Vous êtes dans le quartier Annessens, vous écoutez BXFM sur 104.3. Melting Pot sur BXFM.
BXFM. BXFM.
Il a sillonné l'Irlande, rêvé des heures la tête à la fenêtre. Imaginez les angles, les bouts par lesquels reprendre sa vie. N'avait-il pas déjà fait bien trop de détours? N'était-il pas trop vieux pour envoyer Valsy à compter d'aujourd'hui? Tout recommencer, une page blanche sur sa vie. Elle n'a plus l'âge d'être seule, mais elle en a le courage. Elle voudrait partir et quitter ce triste et pas naufrage. Il ne s'aime plus depuis longtemps, tellement depuis toujours. Et c'est si rare tant que ces gens-là regardent en face l'amour. Elle court, elle est déjà dehors, le regard devant. Elle court et le mauvais sort aussi le prend pour envoyer Valsy à compter d'aujourd'hui. Une page blanche sur sa vie. Envoyez Valsy à compter d'aujourd'hui. Tout recommencer. Une page blanche sur sa vie.
Soares sur BXFM avec Envoyé Valsé. On va s'envoyer Valsé avec la littérature aujourd'hui. Evelyne Guzzi, Marc Herman et son invité aujourd'hui, Alain Lallemand.
Oui, comme vous y allez, Charles. Dites, on rappelle quand même que c'est tous les lundis, c'est très important, en compagnie d'Evelyne. Et Evelyne qui va à la pêche au bon bouquin, on peut dire ça. Et dans ce cas-ci, c'est vrai que c'est assez passionnant. Je vous laisse peut-être rappeler un petit peu le sujet en deux mots.
Donc, on parle du livre d'Alain Lallemand, Ma plus belle déclaration de guerre, qui est paru chez Luce Wilquin. Et donc, Alain Lallemand nous parle d'un héros, Rock, je pense qu'on prononce Rock, qui est en fait un médecin de la Croix-Rouge. Et il passe sa vie loin de chez lui, la Suisse, où il délaisse quelque peu son fils. Et en fait, il est chargé de monter des hôpitaux en zone de conflit. Alain Lallemand vient de nous le rappeler. Et il se passionne pour son métier. Mais il se passionne pour son métier pour des raisons claires et d'autres plus secrètes, mais qui nous sont révélées dans ce livre. Bon, la raison claire, entre guillemets, la raison noble, c'est parce que, justement, il va sauver des gens, qu'il va servir des causes nobles. Et la raison un peu plus obscure, c'est parce que tout ça provoque en lui une sorte de montée d'adrénaline dont il ne peut se passer. Approcher le danger, nous dit-il, c'est croquer de l'extase. Ben, c'est ce que nous confie le héros. Mais vous aussi, Alain Lallemand, vous avez approché le danger comme ça. Alors, est-ce que c'est croquer de l'extase?
Oui, c'est vraiment croquer de l'extase. C'est très dangereux. Donc moi, j'ai croisé des personnes qui sont accros à ça. J'ai croisé non seulement des journalistes, reporters, correspondants de guerre, j'ai croisé des diplomates, donc qui mettent en application la politique de leurs États et qui sont devenus accros à ce danger. Donc c'est quelque chose auquel il faut savoir que cela existe, il faut savoir, certains urgentistes le savent très bien pour eux, par exemple, que ces situations de danger provoquent certaines adaptations du cerveau. qui vous permettent d'être plus alerte, d'être plus répondant, mais aussi qui vous mettent en danger dans votre capacité de jugement. Voilà, il faut le savoir. Donc, mais ceci étant dit, maintenant, je pense que nous vivons un moment extraordinaire d'ouverture sur des opérations extraordinaires et que ce roman vous relance à chaque fois sur, bon, je peux me projeter très loin, je peux me projeter dans une très grande violence, mais est-ce que la véritable mission de nos existences ne se passe pas au plus proche, au plus près de nous, dans nos quartiers? Et c'est ça le véritable déchirement, je pense, dans ce roman. En tout cas, vous lui expliquez, c'est que on peut mener de très très grandes opérations pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, comme vous l'expliquez, mais il y a encore ce problème de savoir quelle est la part du travail dans le très loin, quelle est la part du travail à exécuter dans l'actualité. Les djihadistes, évidemment. Quelle est la part de ce que nous devons faire en Irak aujourd'hui avec des chasseurs? Quelle est la part de ce que nous devons faire dans nos quartiers pour éviter la radicalisation? Eh bien, je ne suis pas sur ce sujet-là avec ce roman, mais je pense que ce roman s'inscrit bien dans cette actualité, dans cette réflexion. Quelle est notre part d'acteur international? Quelle est notre part simplement d'adultes qui devons faire évoluer, faire croître, embellir le monde immédiat dans lequel nous vivons?
Alors évidemment, vous me faites penser à ce meurtre, ce travailleur humanitaire qui a été égorgé par l'État islamiste David Haines. C'est vraiment une actualité toute récente. Et alors le roman, évidemment, nous reporte sur le travail de ces travailleurs humanitaires qui prennent des risques colossaux et particulièrement maintenant. Est-ce inutile ?
Non, ce n'est pas inutile et je voudrais quand même dire qu'il y a beaucoup de travailleurs humanitaires qui trouvent dans ces situations de guérilla ou dans ces interventions d'urgence une certaine sérénité. C'est un des paradoxes que je mets en avant dans le roman également, c'est qu'il y a des zones de grand silence, il y a des zones de grande réflexion. Nous pensons que les zones de guerre sont des zones de guerre partout, tout le temps. Mais non, la guerre est un phénomène, le contact, le combat est un phénomène qui se déplace dans les zones de territoire. Et à partir de là, il faut bien savoir que... Ah, j'entends un téléphone qui sonne. Il faut bien savoir que ce n'est pas le cas. Une guerre n'est jamais la guerre partout, tout le temps. Une guerre, c'est aussi beaucoup de silence, c'est aussi beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de contact. Et si vous demandez, par exemple... Sortons du roman deux minutes, si vous demandez dans l'histoire vraie à MSF Belgique s'ils sont satisfaits d'avoir ouvert une maternité à Rost en zone talibane il y a quelques années, ils vous diront c'est très difficile, mais on y est parvenu et que sans doute les accouchements qui ont été faits là-bas sont merveilleux.
Je vais revenir alors à l'histoire. Nous sommes en fait en 2008. Erhoc est chargé d'ouvrir un hôpital en zone contrôlée par les talibans en Afghanistan. Et pour réussir sa mission, donc, il projette de rencontrer le Mollah Omar. Alors, le fameux Mollah Omar, ce dirigeant de la guérilla qui est disparu en 2001, juché sur sa motocyclette. Tout le monde se souvient de cette image alors qu'il était poursuivi par les forces américaines. Et finalement, l'objectif de Roche n'est pas au goût des services secrets occidentaux qui déploient une activité intense dans la région, mais ne peuvent pas officiellement contrer la Croix-Rouge. Et il y a une grande partie de moi qui semble sous contrôle occidental, si on lit bien le livre. Mais une autre partie qui semble tout à fait hors du contrôle occidental et qui est régentée par les talibans et aussi par des brigands qui se livrent à toutes sortes de trafics, les uns collaborant avec les autres. Donc on voit toutes les zones de flou en zone de guerre. Il y a ceux qui se revendiquent de la lutte et puis ceux aussi qui se revendiquent d'intérêts plus pécuniers. Et tout ça collabore ensemble, tout est dans le flou. Donc voilà, c'est dans ce cadre que le travail de Roch va s'avérer périlleux et c'est aussi dans ce cadre qu'il va pouvoir lire plus clairement en lui-même et en ce qu'il est. Mais on en reparlera, je pense, après une pause musicale.
Mais que vous faites ça bien, ma chère. Elle a le sens du timing parfait. En plus, on écoute effectivement un disque.
Très bien, celui d'Ale Farben avec la voix de Graham Candy, She Moves.
Far away, far away, in a land where the sun will hide.
BXFM partout dans le monde sur le web bxfm.be ainsi qu'à Bruxelles et dans la périphérie sur le 104.3. On revient avec Evelyne Guzy. Evelyne Guzy qui a un site internet aussi. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Evelyne Guzy avec 53 Y et 3 E. EvelyneGuzy.be. Plus d'infos sur la page Facebook de BXFM, BXFM 104.3. On revient avec notre invité, Alain Lallemand, aujourd'hui, jusque 13h dans le Melting Pot, ma chère Evelyne.
Oui, et son nouveau roman, Ma plus belle déclaration de guerre, qui est une sorte d'ailleurs de déclaration d'amour à son fils ou sa fille, en tous les cas à ses enfants, si j'ose le deviner, qui est publié chez un éditeur belge, Luce Wilquin, dont nous avons déjà parlé. Alors voilà, on a maintenant parlé de qui était Alain Lallemand, on a vu également de quoi parlait son livre, ce qu'il nous raconte, et finalement j'ai envie de nous dire que ce livre nous amène dans une réflexion sur des thèmes tels que les limites de la neutralité, la puissance et les droits qu'elle s'arroge sous les masques du bien en quelque sorte, et l'héroïsme lui-même est questionné, est-ce qu'il ne dissimule pas parfois une fuite de la réalité, une négligence de ceux qui nous sont proches. Qu'en pensez-vous, Alain Lallemand ?
Mais je pense qu'un des véritables héroïsmes, c'est ceux qui sont liés à la paternité, au fait d'être père ou mère, d'être parent. Et donc, il y a, est fondamental et crucial dans ce roman, la pleine conscience de l'importance d'être engagé dans le monde et de rester engagé tout près de ses enfants. Alors, il y a des pages et des pages qui sont celles sur lesquelles j'ai eu le plus de bonheur de travailler l'écriture, qui sont les pages de réflexion sur la relation entre le père et le fils. Il y a plusieurs chapitres qui sont dans cette émulation, cette compétition-émulation entre le père qui prend par la main le fils et puis le fils qui finalement va prendre l'ascendant sur le père dans les exploits sportifs, mais aussi dans la vie. Et je pense que là, il est très important de rester simplement ouvert, de rester vrai sur les défis que nous avons. L'héroïsme, il est au coin de la rue. Manara disait « l'aventure est au coin de la rue ». Eh bien, je pense que l'héroïsme, il est aussi au coin de nos écoles, il est au coin de nos salons, il est quelque part dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour cela que lorsque je dis ma plus belle déclaration de guerre, j'invoque évidemment le médecin urgentiste qui est aux confins des territoires de conflits traditionnels. Mais ce médecin urgentiste, sa déclaration de guerre, il la vit avec un enfant qui se trouve là à un mètre de lui et avec lequel il doit vivre les conséquences d'un divorce. Donc je pense effectivement qu'il y a dans les pères, dans les mères qui n'ont pas baissé les bras, il y a cet héroïsme commun qui est très revigorant.
Et cet amour des enfants, cet amour au fils, finalement, est-ce que ce n'est pas un lien, quelque chose qui relie tous les hommes? On sent dans votre roman que bien que le médecin urgentiste désapprouve complètement la politique des talibans et leur vision de la société, il se retrouve dans l'amour d'un père taliban pour son fils aussi, et il sent vibrer cet amour lui aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce lien qui nous unit à nos enfants?
Sans doute. Se rappeler, par exemple, que Mollah Omar, j'en parle dans la fiction, mais comme dans la réalité, est un père de famille. Mollah Omar a payé très cher le fait d'avoir déclaré la guerre à l'Occident. Il y a laissé son fils, qui était bombardé. Ça, c'est dans la réalité. Et donc, dans le roman, comme dans la réalité, je pense que nous sommes tous, si nous réalisons que nous sommes d'abord des parents... Il y a, par exemple, sur la problématique des returnees ou des djihadistes, il y a des choses sans doute à développer, du bon sens. Nous avons tous, en fait, en tant que parents, pères, mères, une expertise sur la manière dont nous pourrions aider, dont nous pourrions épauler, dont nous pourrions encourager aujourd'hui des personnes qui ont ces problèmes avec des adolescences qui peuvent être des adolescences de crise. On parle aujourd'hui des djihadistes, mais on peut aussi parler des sectes, on peut parler de l'usage des stupéfiants, on peut parler de toutes les tentations de l'adolescence.
Donc, il ne faut pas démissionner de son rôle de parent, c'est un petit peu votre message.
Mais loin de là, et je pense que l'aventure, elle se trouve là. Surtout, ne pas abandonner, parce qu'au bout du bout de ce roman, mais aussi de nos existences, il y a des réconciliations qui sont toujours probables.
Alors, en lisant votre livre, moi, j'ai été frappée par votre don d'observation et la précision de votre description. Par exemple, vous connaissez le nom des oiseaux qui peuplent la forêt afghane, tout comme celui, d'ailleurs, de chaque arme, de chaque drone qui se trouve dans le ciel. Et j'ai personnellement ressenti physiquement les sensations que provoque le danger sur un terrain de guerre et aussi mieux compris les rites tribaux et tout le langage non-verbal qui se développe dans les différentes interactions, dans cette partie finalement qui est très reculée de l'Afghanistan. On peut dire que vous aimez ce pays.
J'adore. J'adore, je répète, j'adore, avec ses faiblesses, avec ses failles, avec toute sa brutalité, ce pays m'a aidé à identifier qui je suis. Je sais aujourd'hui pourquoi je suis européen de l'Ouest, mais je sais aussi en quoi je suis proche d'un père afghan, en quoi je suis universel. Et en quoi je suis aussi extrêmement spécifique. Donc je me suis aussi construit avec la manière dont les Afghans qui ont les pieds bien sur terre, qui savent ce qu'est le prix d'une vie et qui savent encore ce qu'ils doivent à Dieu ou à la terre, il y a plusieurs réalités que j'ai redécouvertes et je leur en suis très reconnaissant.
Avec de la tristesse peut-être par rapport aux événements qui sont là pour le moment.
Évidemment, ce sont des guerres. Elles vont nous coûter très cher, elles leur coûtent déjà très cher, mais elles nous construisent en même temps qu'elles nous anéantissent.
Ben c'est ce qu'on sent très bien dans votre livre, Alain Lallemand, qui est vraiment un de ces livres auxquels on s'accroche parce qu'il y a une écriture prenante, parce qu'il y a un héros qui est attachant, une histoire qui est passionnante. Et voilà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de vos passions, de l'Afghanistan et de votre livre.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, merci Evelyne en tout cas et merci Monsieur Lallemand. On va passer encore un petit disque et puis il y a deux, trois petites infos sur lesquelles on va venir juste avant l'heure.
Absolument, bon, des infos pour passer un chouette week-end. Hein.
Voilà. Et puis on parlera un peu de la semaine prochaine.
Très voilà. Bien. Allez, on va s'écouter Manu Chao.
Que corazón, mi corazón. Te lo dije muy
bien. Permanece en la escucha.
Noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus que voy a hacer, je suis perdu.
Qué corazón, mi corazón.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche.
Melting Pot, allez, dans quelques minutes, il sera 13h, on revient encore avec Evelyne Guzzi pour quelques petites infos assez sympas et sympathiques.
Oui, voilà, justement, après avoir parlé du très beau livre d'Alain Lallemand, Ma plus belle déclaration de guerre chez Luce Vilquin, que je continue à vous recommander. Je me dis que si vous avez du temps libre ce week-end, eh bien, vous pouvez participer le dimanche à 15h à un événement qui est à la fois poétique, musical et humaniste, qui est gratuit. Et qui est organisé par le collectif J'écris ton nom, Fraternité. C'est un collectif qui est représenté par Rachid Barghouti, Serge Noël et Daniel Pérez. L'événement a lieu au théâtre Le Public, donc c'est rue Bram 64-70 à 1210 Bruxelles, mais vous retrouverez tout ça sur mon site internet. Et c'est une initiative qui est née, et ça va bien avec le thème d'aujourd'hui, face au climat pesant qui règne parfois lorsqu'il y a des désaccords politiques qui séparent les citoyens face aux guerres qui ont lieu hors de chez nous. Alors, que le vent de l'automne chasse l'été de la haine, c'est le titre de cet événement. Et les initiateurs nous invitent à être d'accord de ne pas être d'accord autour d'un partage de textes, de poèmes, de chansons et tout ça dans un esprit d'ouverture. Alors, bon, au programme, il y aura des musiques, des lectures de poèmes. Il y a notamment Sam Touzani, Claude Semal, Richard Ruben, Moukti. Il y a aussi un débat animé par Jacques Socher, Shemsi Sheref Khan et Michel Goethe. Et il faut réserver, c'est gratuit, mais il faut réserver, c'est indispensable. Il y a un numéro gratuit à nouveau, le 0800 944 44. Il y a aussi sur Facebook un événement qui est ouvert et que je mettrai aussi en info sur mon site.
Et je sais pourquoi, parce que je lis le lien ici. Je pense que si vous devez donner ce lien-là en radio,
impossible,
ça va être un peu plus compliqué pour
impossible.
Les gens. Alors, en vitesse maintenant, la semaine prochaine, Evelyne.
Eh bien, d'autres rebondissements qui sont bien de notre époque actuelle. Il y a le livre d'Éric Russon, Crispation, qui est paru chez un nouvel éditeur belge qui s'appelle L'Amirois. Et Marc Hermand, je vais le faire travailler un peu la semaine prochaine, parce qu'il a lu le livre de notre chroniqueuse BD Sophie Flamand qui s'appelle Fusion, qui est paru chez le même éditeur, donc L'Amirois. Et donc, je demanderai à Marc de partager avec nous ses impressions. Boulot, Marc.
Merci de m'inviter. Ça fait toujours plaisir.
Voilà. Chroniques pour le prix d'une. Deux chroniqueurs pour le prix d'un.
Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Bon appétit à tous. Soyez raisonnables. Tout avec modération, comme toujours, bien sûr.
Très bien. Toi-même, là.
J'essaie de me convaincre.
Oui, je vois.
Allez, Marc. À demain pour le Melting Pot. Et on revient lundi prochain avec Evelyne Guzzi, plus d'infos www.evelyneguzzi.be. Je suis avec vous jusque 16h pour BX Après-midi tout de suite.